retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxy 98.5. Nous allons parler de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Je tiens ces propos de Georges Passerat, qui est professeur à l'Institut catholique de Toulouse et membre de l'Académie des Jeux Floraux. La ville rose, cité palladienne, capitale du Languedoc, possède la plus vieille académie d'Europe. C'est l'Académie des Jeux Floraux. La compagnie des sept troubadours de Toulouse est née en 1323. Elle fut supprimée seulement en 1790, le temps de la Révolution. Fleurir la poésie. Son rôle est ainsi répandu dans toute l'Europe et la Grande Académie a honoré tous les écrivains de notre histoire littéraire. Elle est bilingue et à l'origine du prolongement du rayonnement de la langue d'oc des troubadours jusqu'à aujourd'hui. C'est l'Académie du Gai Saber. Les membres sont les mainteneurs des jeux. Ils sont au nombre de 40. Les origines se retrouvent sur les rives de Garonne. Il s'agit d'un groupe de fins lettrés qui veulent honorer le temps des troubadours. Nous sommes, il faut dire, dans une époque tragique après le règne de Philippe le Bel, persécuteur des Templiers, des Juifs, ayant mis sous son pouvoir les papes en Avignon. Cette époque voit surgir la croisade des pastoureaux dans le Toulousain qui poursuit lépreux et cagots, brûle les sorciers et qu'il faudra anéantir. C'est aussi l'époque de ceux que la littérature a qualifiés de rois maudits et qui vont voir arriver sur le trône un Valois, prémisse de la guerre de Cent Ans. Au milieu de tant de malheurs, on voit surgir ce mouvement créé par des bourgeois et membres de l'aristocratie toulousaine, et assez peu poètes, un seul sur sept. Ces sept fondateurs se réunirent dans le verger du Barri des Augustins. Ils créent le conservatoire du Gai Saber pour distribuer des fleurs aux poètes. Nous sommes au moment où le Languedoc va être rattaché au royaume de France. Va arriver le français, et donc défendre la poésie occitane ayant illustré Toulouse jusque-là. C'est son but. L'Académie défend l'art de composer les vers. Cette volonté est la recherche de la grammaire logique, dans le sens de « grammatica », c'est-à-dire « belles lettres », ouvrage intitulé « Ley d'amour »,« loi d'amour ». Cet ouvrage de 1356 est la première grammaire connue. Elle permet la connaissance, pour parler de la langue romane, occitan, codifiée, mise en place par des lettrés, le bon langage des bons et anciens troubadours. Cette époque des troubadours, je rappelle, s'étend de 1100 à 1350. Le dernier membre du consistoire du Gai Saber est un moine franciscain, Raymond de Cournette. Il apporte des commentaires sur la poésie du troubadour, sur la chanson pieuse poétique et religieuse. Parmi les sept troubadours de Toulouse, il y avait six juristes et un seul poète au départ, Bernard de Panassac. Les derniers protecteurs des troubadours ont été les comtes d'Astarac. En 1191, on retrouve les troubadours à la cour de Rouergue et des soutiens en Gascogne. notamment à l'Île-en-Jourdain, mais aussi à Rodez. Ainsi, on remettait des récompenses aux poètes en 1290. Ceci va être à l'origine de ce concours de Toulouse du 3 mai 1324, début du concours des fleurs. La première violette d'or attribuée a été donnée à Arnaud Vidal de Castelnaudary avec un chant dédié à la Vierge Marie. On recherche le summum de l'art de créativité littéraire, le toubarik, la poésie virtuose savante, savante prouesse technique de composition, l'ey d'amour, suit des conseils pour composer les poésies, modèles inventés avec réussite, pléthore de poésies religieuses de grande qualité, explication par exemple du credo, de pièces théologiques. Parmi les mainteneurs, on retrouve les membres de l'Université de Toulouse. Et les premiers membres sont les dominicains et les franciscains, qui contrôlent tout ce qui se dit et montrent beaucoup d'intérêt. On retrouve des docteurs en poésie, en loi et décrets. Certains membres sont devenus papes et même cardinaux. En 1355, les mainteneurs sont tous maîtres de l'université, tous docteurs. Au début, on attribue aux lauréats une violette dorée à leur fin. Le souci, la triglantine, c'est-à-dire l'encolie, pour se présenter, il faut le titre de bachelier, être de bonne mœurs et réussir l'examen. Réciter un commentaire de texte juridique. Mais bien sûr, l'Inquisition surveille tout. On retrouve un mouvement franciscain avec des poèmes spirituels qui a été même poursuivi par l'Inquisition. À partir de 1500, l'Occitan reste jusqu'en 1975, mais on publie aussi en latin et français. Les grands poètes du XVIe et XVIIe siècle ont écrit en Languedoc. Entre 1694 et 1898, certains ont abandonné l'occitan, mais au XVIe, une restauratrice légendaire des Jeux floraux, Clémence Isor, apparaît. Jante dame toulousaine aurait soutenu de ses deniers le collège de rhétorique en aidant les Capitouls qui étaient chargés de faire vivre ce collège. Clémence Isor, fée protectrice, inventée par un membre qui a emprunté le nom d'Isaliès, d'où Isor, qui sonne bien. Et Clémence, c'est la vertu. La dame de Clémence, c'est aussi la Vierge Marie. Notre-Dame, qui est calquée sur la dame de leur cœur, celle qui chantait les troubadours, et Clémence, qui incarne le mécénat de cette ville, et la place, bien sûr, de la Vierge Marie dans les pensées de ses poètes. Depuis 1559, il y a toujours, à l'Académie, un petit éloge à Clémence Isor. Son sarcophage se trouve dans la salle des Jeux floraux. Sa statue se retrouve place de la Concorde et au Jardin des Tuileries à Paris. Au XVIe siècle, on prend modèle sur la Pléiade et les grands poètes parisiens, Ronsard. Le collège va s'appeler Collège de rhétorique. On couronne Ronsard d'une Minerve en or, un Apollon géant. On revient au modèle gréco-romain. Pendant les guerres de religion, différents courants apparaissent. Toulouse est restée catholique. Comme principal poète, on remarque Duchesne et Dupuy, d'où le nom de sa place Dupuy. On s'exprime en français et occitan. Le plus célèbre, c'est Peyre Goudouli, 1580 et 1649. C'est un célèbre toulousain qui célébrera la louange qui a une vie ajoutée à la boisson et chants royaux, écrit en occitan. La compagnie du Guessaguer, créent des défilés, des carnavals, des jonchées de fleurs, des banquets. On retrouve de nombreux avocats, des magistrats toulousains. Et on crée d'autres distinctions, notamment l'œillet et le souci. Sous Louis XIV, on assiste à une décadence et une débauche de festins pantagruéliques à Toulouse. Les capitouls, d'ailleurs, se faisant servir des veaux entiers. L'ordre va venir de la création de la Société des lanternistes de Simon de la Loubert, dont nous avons parlé dans une émission précédente, qui va reprendre en main avec autorité l'Académie en 1694. On passe le nombre de membres à 40. Les fleurs sont maintenues, amarantes d'or, lys, d'argent. Les discours se font en prose maintenant. Au XVIIIe siècle, on honore Jean-François Marentel, ami de Voltaire. Mais il n'aura pas de grande distinction. Son ode sur l'invention de la poudre à canon n'ayant pas été reconnue, il s'en plaindra à son ami Voltaire. On retrouve ici Sébastien Roche, Nicolas de Chamfort, Jean-François de la Harpe. Il y a aussi des scientifiques et Jean-Jacques Rousseau. L'Académie couronne Fabre d'Églantine avec un lys d'argent, grâce aussi à un sonnet à la Vierge Marie. Durant la Révolution, c'est une période triste, jusqu'à l'Empire. Les sept mainteneurs se réunissent chez James, un café, et vont rétablir les jeux floraux. Alors, les cendres de Goudouli sont transférées à la Dorade. L'Académie rentre dans la période romantique. De jeunes poètes comme Chateaubriand, Lamartine, Soumet, de Récillier vont se présenter. En 1819, Victor Hugo obtient le lys d'or pour une ode sur le rétablissement de la statue d'Henri IV. Il devient maître des jeux floraux et obtient une dispense militaire. Je vous livre une petite phrase. « Dans Toulouse la romaine, je cueillais la poésie en fleurs. » La Languedoc, méprisée, revient sur la scène grâce à des poètes comme Jasmin, poète perruquier de Toulouse, qui attirait les foules. Partout, lui, la poésie. Toujours en rapport avec les troubadours et Goudouli. En 1879, est reçu Frédéric Mistral. En 1854, est créé le Félibrige, qui donne sa valeur à la Languedoc et célèbre Clément Cizor. En plus des académiciens, il y a des maîtres des jeux qui sont honorés. Membres de l'académie ayant obtenu 3 fleurs. Puis on passe ex-maître des jeux. Et ensuite on rentre au jury. L'académie continue cette activité, le jury délibère et attribue les fleurs. En 1840, nous avons un tableau à l'hôtel de la César qui présente une séance de l'académie des jeux floraux. Alexandre Dumège est un grand maître mainteneur qui, grâce à lui, on a lu les manuscrits médiévaux pour la première fois. Et actuellement, le lys d'argent récompense la poésie offerte à la Vierge. L'Académie récompense aussi la chanson poétique musicale. Il y a un prix du jeune poète. En 1900, voit le réveil de l'Occitan, mot récent sous l'impulsion de Prosper Estieux et de l'abbé Salva de l'Institut catholique. On crée ainsi le Collège d'Occitanie. Dignité de la Languedoc, considérée à égalité avec la langue française. Longue vie donc à cette académie en honorant tous ces lys du passé. Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.